Ah, le voilà.
Bon,
oui, bonsoir.
S'il vous plaît. Nous sommes en direct.
Bonsoir. Nous sommes en direct, très bien.
Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir.
J'ai une interférence dans mon lieu confiné.
Bonsoir, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar. Cette émission va être placée sous le film du n'importe quoi, j'ai l'impression, parce que c'est déjà bien parti. Là. En tout cas, dans les coulisses, nous, on est chaud patate. Bref, bonsoir à tous, bonsoir Méduse.
Salut Mortal, et salut à nos invités.
Voilà, nous accueillons ce soir Cyrard, notre maître à tous.
Et invité quasi hebdomadaire.
Invité, oui, quasi hebdomadaire.
C'est toutes les deux semaines l'émission, sinon.
Mais c'est pas grave, c'est hebdomadaire. Non mais lui il vient même
le lendemain quand il y a personne.
Il vient, d'accord.
Et Antix, le pilier de forum de Nintendo Man, qui va nous accompagner tout le long de cette émission.
Bonsoir à tous, et je compte bien devenir pilier du Dojo Bar.
Oh mon dieu.
Ah. Bravo, tout ça de l'ambition je vois.
Alors, au sommaire cette fois-ci, nous allons parler dans la première partie de l'émission de Wind Waker, à l'occasion de la sortie de Wind Waker HD. On va parler du jeu en lui-même, de la polémique qu'il avait créée à l'époque, et puis bah, évidemment du remake HD, on est un petit peu là pour ça.
Voilà, et dans la foulée des remakes HD, on va en parler en deuxième partie de l'émission, vu qu'il y en a de plus en plus forcément. Est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise, est-ce qu'ils sont intéressants en général, et combien est-ce qu'on racle pour tout ça?
Voilà, mais d'abord, juste avant le tour de table de l'actu, on va faire un petit hommage à Tonton Hiroshi, une spéciale case dédiée à Tonton Hiroshi qui nous a quittés. Donc Méduse, tu voulais dire quelques mots?
Oui, voilà, c'est un homme qui nous a beaucoup marqué, évidemment, depuis longtemps, qui nous a beaucoup inspiré. Donc pour cette émission, je dédicace cette émission à Hiroshi aux toilettes. Parce que c'est l'endroit où je me trouve actuellement pour l'émission, on témoigne de la photo sur le Twitter de Nintendo.fr. C'est pour toi, tonton.
Pour toi, tonton. Mon dieu, story. Bref, on va commencer ce petit tour de l'actualité par Antix, qui va nous parler de quelques retards, en réalité.
Ouais, bah déjà des dates, parce qu'il y a eu un Nintendo Direct aujourd'hui. Principalement Mario 3D World le 29 novembre, Zelda sur 3DS le 22. Bravely Default qui sortira en 2013 le 6 décembre, et tout aurait pu être beau si seulement Donkey Kong n'était pas sorti en février. Donkey Kong sortira en 2014.
Ah putain, c'est février. Vache.
Ouais, c'est 2014, je crois, mais
je crois que c'est long, je pense. Ouais, je crois que c'est février aux États-Unis.
C'est décembre, 2014. J'espère.
Il nous ruine la fin d'année, du coup.
Ouais, il nous ruine un peu la fin d'année.
Bah, pour compenser, le trailer de Mario avait l'air de donner envie. Enfin, moi, j'ai vraiment eu envie en voyant le dernier trailer de Mario, donc ça compense pour moi, mais...
Ouais, plus qu'à l'E3, je trouve, d'ailleurs.
Beaucoup plus.
Bah, mais oui. C'est vrai que le Super Mario 3D World, on parle bien de celui-là, hein, je dis pas de bêtises.
Oui, yep. Oui.
Ça a l'air quand même vachement bien. Enfin, j'étais pas très convaincu au départ, et au final, je sais pas, ça a l'air cool, quoi. C'est vrai qu'effectivement, le dernier trailer, il a l'air vraiment, vraiment sympa.
Ouais, il faut dire que l'actualité des jeux Nintendo, surtout Wii U, pour la fin d'année, est tellement chargée. On croule sous les jeux, donc ils ont été obligés de repousser le jeu. Je pense qu'il n'y a que ça comme
explication. Oui, c'est l'explication la plus rationnelle.
Exactement.
C'est à peu près le seul jeu de fin d'année, mais bon.
Mais non, il y a celui dont on parle juste après, là. Je sais plus comment il s'appelle.
GTA 5.
Oui, Zelda.
Exactement.
Bref, Méduse, tu voulais nous parler. Alors, je cite. Alors voilà, quand Méduse envoie les informations pour le conducteur, il faut en général prendre un décodeur. Donc, je cite les DLC de Cellule Éclat, liste noire, sur Wii U et supports inférieurs. C'est exactement ce que j'ai reçu moi, pour préparer l'émission.
C'est absolument pas de ma faute si Ubisoft traduit pas ses titres de jeu en français. On parle de Splinter Cell Blacklist, bien sûr.
Oh putain!
Cellule Éclat, liste noire!
Ah, c'était ça!
Deviné.
Si, bien sûr, j'ai deviné au deuxième coup d'œil, mais si tu veux, le Cellule Éclat m'a laissé un petit peu perplexe.
Je pensais que c'était un jeu indé, moi.
Non!
C'était
pas
bien,
du tout, pas du tout. Il s'agit bien de Splinter Cell. D'ailleurs, Mortal, je crois que tu as un petit peu joué sur Wii U, non?
Oui, j'y ai même pas mal joué. Je dois en être à peu près à la moitié du jeu. J'ai pas eu le temps de beaucoup jouer ces 2 ou 3 dernières semaines, donc c'est à peu près le seul jeu. Je me suis dit, je préfère me concentrer sur un jeu et essayer de le finir plutôt que de commencer plein de trucs sans le finir.
C'est valable?
Ben, ça va. C'est pas. Disons, ce que j'apprécie beaucoup. Je crois que je l'avais dit la dernière fois d'ailleurs, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand tu commences à en avoir ras-le-bol de la jouer infiltration, bah tu peux la jouer gros bourrin. Voilà, donc au
Ah
moins,
ouais.
quand ça te fait chier, tu bourrines.
Ouais. Donc ma petite info, c'est à propos du DLC qui vient de débarquer il y a une grosse semaine, grosso modo. En fait, c'est un DLC qui a fait un petit peu de bruit, parce que grosso modo, il pesait 100 mégas, qui était en fait. Les gens pensaient en fait qu'il était présent sur le disque à l'origine, donc que Ubisoft faisait payer juste une clé de déverrouillage à 100 kilooctets. Puis il y a eu des doutes autour de ça, et finalement, l'info qui a circulé était que les DLC n'étaient pas présents sur le disque d'origine, mais dans une mise à jour qui a eu lieu très tôt sur la version du jeu, que ce soit sur PC, Wii U, 360 ou PS3. Et finalement, il se trouve que y a des petits malins, enfin ceux qui piratent le jeu avaient déjà accès au DLC en fait au mois d'août, puisqu'il était finalement bel et bien sur la version du jeu. C'est 22 mégas pardon qui pèse le DLC. Donc voilà. Donc si vous achetez le DLC de Splinter Cell à 6 € quelque chose, ben sachez qu'en fait les 22 mégas du DLC sont déjà sur le disque d'origine et vous avez acheté juste une clé pour déverrouiller à 100K. Merci
Putain, mais
Ubisoft.
c'est super. Au lieu de le mettre dans le jeu, ils le mettent dans la mise à jour. C'est
En fait,
top.
je crois qu'ils l'ont mis dans le jeu, donc déjà dans le jeu à la base, mais je pense qu'après, peut-être que via une mise à jour, ils ont masqué le fait qu'il était déjà dans le jeu de base, tu vois, genre ils ont redownloadé les fichiers.
Ils ont effacé ce qu'il y avait sur le CD.
Ou bien effectivement, c'était une vraie mise à jour qui mettait en plus à jour le DLC déjà présent, alors qu'il n'était pas encore sorti.
Putain, mais c'est quand même, ça devient de plus en plus n'importe quoi ces histoires de DLC et autres, parce que c'est.
Oui, et enfin c'est étrange, je veux dire, déjà on a des politiques tarifaires un peu étranges, on en a déjà parlé, et à côté de ça, t'as des trucs genre le DLC déjà présent sur le disque, ça fait un petit peu mal, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, je crois pas, enfin, et ça contraste vraiment avec le petit DLC de Pikmin 3 qui a été annoncé aujourd'hui à 2 € pour les 4 petits niveaux, là, qui sont faits juste des remises en place du mode mission, mais enfin voilà, on est vraiment deux mondes différents, quoi.
Il y en a un gratuit aussi quand même, non?
Il y a un niveau gratuit et il y en a 4 qui sont payants pour 2 € les 4. C'est le premier paquet en fait.
D'accord. Bon bah ça.
C'est rare, hein. Peut-être une actu pour nous aussi?
Moi?
Non, jamais.
J'ai un magnifique nouveau micro comme vous entendez.
Voilà.
C'était ma petite actu.
Cette petite actu personnelle. Mais comme il vient toutes les semaines, tu veux, au bout d'un moment il s'est dit je vais peut-être prendre un micro valable.
Non, c'est
C'est
que
vrai que...
j'avais une actu l'année dernière qui m'a duré 3 mois parce qu'on m'a jamais laissé la dire. Donc maintenant je fais la grève, j'en sors plus.
Non, 3 mois, tu la lâches pas, quoi.
Bref. Bon, bah moi je vais finir donc notre petit tour de table de l'actu en parlant d'un petit accessoire qui a été créé par un Allemand qui s'appelle SNES Over IP.
Tu peux le prononcer avec l'accent allemand?
SNES Over IP.
Dankeschön.
C'est des mots de verbe plaisir. Si tu veux, je vais tout le reste de la news ou comme ça. Ça va être très, très pratique.
Je veux, moi.
Challenge
moi,
accepted.
Challenge accepted.
Non, ça va être très compliqué à tout expliquer comme ça. Je veux dire, mais vraiment, on va rien comprendre.
Petit joueur.
Je vous ferai si vous voulez, je vous fais tous les retours d'antenne comme ça.
Bon,
d'accord.
Deal.
Nous serons de retour.
Dour.
Ok, je vous le fais comme ça, c'est promis. Donc c'est un Allemand qui a codé un petit module qui s'appelle SNES over IP et qui donc permet de jouer à la Super NES au-dessus d'un réseau IP, donc techniquement d'aller jouer à la Super NES sur un réseau local, ça a relativement peu d'intérêt, mais aussi sur Internet. Donc le monsieur, il a créé un petit boîtier en fait, dans lequel on peut brancher une manette de Super NES à l'avant, et à l'arrière en fait il fait sortir deux sorties de manette, que tu branches dans ta Super NES. Donc bon, faut quand même que t'arraches une Super NES pour arracher un port manette et que tu meurtrisses deux pauvres manettes de Super NES qui ont rien fait pour faire le montage. Mais voilà, en gros, ils donnent tous les plans pour faire le montage. C'est assez simple à faire. Je l'ai pas encore fait moi-même, hein. Mais c'est pas très compliqué à faire. Et derrière, ben, tu branches ta manette de Super NES à l'avant, tu branches donc les deux manettes qui sont à l'arrière du petit module sur ta Super NES, tu branches un câble réseau au milieu, et le machin, ben, comme par magie, ben, il peut fonctionner sur Internet. Donc chaque fois qu'en fait que tu appuies sur un bouton, c'est retranscrit au module qui prend en compte la latence, la tienne et la latence du mec d'en face, avant de le retranscrire sur ta Super NES. Le seul petit défaut pour l'instant, c'est que y a une des deux Super NES où il faut inverser le joueur 1 et le joueur 2 pour que ce soit un peu cohérent. Parce que sinon, ouais, forcément, voilà, tu te retrouves à jouer le joueur 2 au lieu du joueur 1, enfin c'est... Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, et mais je crois que...
Je t'interromps, mais je trouve ça vraiment génial comme idée, en fait, parce que...
C'est assez génial comme idée, parce que...
Oui.
Effectivement,
c'est du partage simple.
Du simple partage.
De console, sauf qu'il y a une manette qui se trouve en réseau, quoi.
Exactement.
C'est pas moi.
Qui c'est qui a fait caca? Je sais pas.
Je sais pas, c'est pas moi.
Oui, effectivement, le principe, c'est juste d'aller faire circuler les infos des manettes en réseau. Alors, pour l'instant, c'est très expérimental.
Et la vidéo aussi, quoi.
Même pas la vidéo. Juste les manettes.
Ah oui, c'est juste les manettes donc.
Juste les manettes.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment juste, t'appuies sur un bouton.
C'est énorme.
L'information du bouton, elle est transmise à l'autre boîtier qui va dire ok, bah ça c'est le joueur 2, donc je vais le transmettre sur le deuxième port manette. C'est tout.
Il n'y a pas de latence ?
Alors il y a une latence forcément. Maintenant ça tourne sur un. Ça peut tourner. Le programme est suffisamment petit pour tourner sur un 80 Mega 80. Alors c'est un processeur un petit peu particulier parce qu'en fait c'est celui qui est au cœur des modules Arduino. Qui sont des modules hardware qui permettent de faire un petit peu tout et n'importe quoi, et qui sont pas chers du tout, c'est-à-dire que pour une vingtaine d'euros, tu peux choper un module Arduino, et si tu sais faire 2-3 soudures, eh ben tu peux construire toi-même le module, tu vas uploader le programme, et puis pouf, c'est parti. Donc c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça super intéressant dans le principe. Pour l'instant, le seul défaut qu'il y a, le vrai défaut, même son concepteur le reconnaît, c'est qu'il faut coder en dur l'adresse IP de la machine qui va réceptionner les données de la manette. Donc en gros, tu peux jouer qu'avec un seul pote en même temps, et si tu veux changer de pote pour jouer, ben t'es obligé d'aller recoder tout le truc à l'intérieur, quoi.
Ah, d'accord.
Donc bon, pour l'instant, c'est un peu en mode relou. Néanmoins, l'idée est intéressante, et le monsieur dit que... Enfin, l'allemand explique, en gros, que... En allemand, d'ailleurs. Que le protocole est tellement simple qu'en réalité, on pourrait faire ça pour quasiment n'importe quelle console. C'est-à-dire qu'on pourrait faire de la GameCube qui fonctionne en réseau en squeezant complètement la machine, en faisant juste ça avec les manettes. On pourrait faire de la N64, on pourrait faire de la PlayStation 1, on pourrait faire à peu près n'importe quoi comme ça. Il suffit juste finalement d'avoir les connecteurs et de réutiliser près le même programme. Voilà. Moi je trouvais ça rigolo, en tout cas. C'est assez balèze. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner à long terme. Est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à le commercialiser sur une version peut-être un peu plus packagée, un peu plus pratique, pourquoi pas? En tout cas, là, tout est disponible, c'est tout en open source, donc on peut aller bidouiller dedans et on peut aller le construire soi-même, récupérer les plans de montage et tout faire. Voilà. Bon, et bien sûr, ces fortes paroles, nous allons marquer première pause musicale. nous allons marquer une première pause musicale. On va s'écouter un petit morceau de Wind Waker, justement. Donc comme ça, au moins, on reste un petit peu dans la thématique, et puis ça, comme ça, tout le monde peut se chauffer.
Lequel morceau?
Alors, c'est Outset Island, c'est donc je crois que c'est la première île du jeu. Enfin, c'est la musique de l'île de base.
L'île de l'aurore?
L'île de base du jeu. L'île de l'aurore, voilà. Je crois que c'est ça. Outset Island, en anglais, ça doit être l'île de l'aurore. Voilà. Donc, ce morceau dure un tout petit peu plus de 2 minutes. On se retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour.
Tour de retour.
Voilà.
Et nous allons donc parler de Findfracker HD.
À peine tolérable. Voilà. On va donc parler effectivement de Wind Waker. Je t'interdis de refaire l'accent allemand.
Acheter.
Tu l'as acheté, Wind Waker HD. Donc on va parler de Wind Waker HD, enfin de Wind Waker tout court d'abord, peut-être, et puis de Wind Waker HD. J'ai un petit quiz pour commencer, si ça vous intéresse.
Vas-y.
Non.
Non, ça t'intéresse pas.
Comment ça, non,
je voudrais dire que depuis le début de la saison 2, on a oublié notre petit rituel.
Ok.
Merci Syrah pour ce bon...
C'était pas obligatoire le bruit.
Ça vient pas de moi, je peux. Tease.
Ok, big up.
Allez, je suis prêt pour le
quiz. Prêt pour le quiz. Attention.
Ah non, pour le quiz,
attention. Première question. Quel a été l'effet de Wind Waker sur les femmes des développeurs du jeu?
Pour répondre sérieusement ou...
Tu peux répondre ce que tu veux. Aucune idée? Personne n'a d'idée?
Elles les ont pas vues parce qu'ils étaient en train de bosser?
Non.
Elles ont eu plein d'enfants.
Elles ont adoré les cochons.
Bonne idée, mais non. Elles ont commencé à s'intéresser au jeu à cause des graphismes. C'est-à-dire que tous les développeurs ont dit... tous les développeurs ont témoigné du fait que femmes ont commencé à s'intéresser à Wind Waker quand elles ont vu à quoi ça ressemblait. C'est le premier jeu sur lequel ça le faisait. Il y a même la femme d'Eiji Aonuma qui a dit que c'est le premier jeu auquel elle avait joué, qui avait été fait par son mari. Avant, les autres ne l'intéressaient pas. Celui-là l'a intéressé justement à cause des graphismes.
C'est vraiment une casuelle de merde.
C'est vraiment un jeu de sale casuelle de merde. Alors, deuxième petite question. Quel secret se cache dans l'écran de sélection de la sauvegarde?
Mais même que la console se vende pas.
C'est une console pour filles. Donc, quel secret se cache dans l'écran de sélection de la sauvegarde?
Il y a la musique... la musique habituelle des Zelda.
C'est pas vraiment un secret, ça.
Ce n'est pas vraiment un secret, ça.
Il y a la tracette quand tu le sais pas.
Ouais, non, mais... Ah, non. Il y a un vrai truc qui se passe. Oh.
T'as un indice ou...
Alors, un indice, ça concerne le fond, en fait. C'est derrière les écritures.
Il y a des mouettes qui passent.
Il y a des mouettes qui passent, mais c'est pas ça le grand secret. Non, vous trouvez pas? Vous abandonnez?
Ça ressemble, non. Ça ressemble à la map d'Hyrule en parchemin, le contour, je sais pas.
Presque, pas tout à fait. Il y a un vrai cycle jour-nuit, en fait, sur l'écran de sélection de sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fonction du moment où t'allumes ta GameCube, il va y avoir un ton différent sur l'écran de sélection de sauvegarde, le fond. Tu l'allumes la nuit, il va faire nuit. Et en fait, il y a un vrai cycle jour-nuit qui dure à peu près 7 minutes. Qui continue à tourner tant que t'as pas sélectionné une sauvegarde.
Yannaz, ta question.
Je t'emmerde.
C'est la réponse, Yannaz.
La réponse est non, mais c'est rigolo.
La réponse est décevante.
C'est un easter egg rigolo. Allez, c'est rigolo.
Donne-moi le point, sinon c'est naze.
Je te donne le point. Attention, troisième question. Quelles sont les particularités des étoiles dans le ciel? J'ai bien dit les particularités. Il y en a deux ou trois à trouver.
Ah, il y en a
deux
plusieurs. À trouver.
Oula.
Il y a peut-être des espèces de constellations qui forment
exactement.
Des trucs marrants.
Il y a des vraies constellations. Il n'y a pas de constellations qui forment des trucs marrants. Alors, j'aimerais bien une constellation en forme de bite au milieu, mais il n'y a pas. J'ai cherché.
C'est pas tout dans un jeu Nintendo.
Voilà. Non, mais il y a des vraies constellations qui sont placées au bon endroit. Et il y a une deuxième petite particularité.
Il y a une constellation Triforce ou un truc comme ça?
Non, il n'y a pas de constellation Triforce. Bien essayé, mais non.
Et ça change avec le temps comme...
Ça change en fonction de la zone géographique?
Alors ça change en fonction de la zone géographique, ça c'est vrai, mais à la limite c'était, on va dire, presque prévisible. Les étoiles dans le ciel ne sont pas des pixels, ce sont des vrais graphismes vectoriels, de sorte à ce que quand tu zoomes dessus, aussi loin que tu puisses, ça ressemble toujours à une étoile.
Ah oui, avec la...
Voilà, justement, ça a été fait exprès pour qu'avec la longue vue, on soit certain de ne jamais voir un seul pixel, mais qu'on voit vraiment comme si le ciel était infini.
Ah, ça veut dire même
que... Ils avaient pensé à ça, quoi.
Ils avaient pensé à ça, ouais. C'est pour te dire, les mecs, à quel point ils ont le souci du détail. Allez, une autre petite question. Comment a été produit le son des chouchous? Alors, je sais pas si vous vous rappelez, les chouchous, c'est les espèces de gélatine un peu relou, là, qui font... quand elles arrivent. Est-ce que vous savez qui c'est qui
a
comment ils ont
fait
ça?
Dans l'eau.
C'est Shigeru Miyamoto quand il se réveillait.
C'est Shigeru Miyamoto qui se réveillait. Bien essayé, mais non. Mais c'est presque ça. Il y a un truc avec des gens.
C'est une des femmes d'un développeur qui a.
C'est pas des bruits d'employés qui s'énervaient ou quelque chose comme ça?
Exactement. Exactement. Tu gagnes un point, Antix.
Wouh!
Oh, il l'a googlé, c'est obligé.
Bravo!
Il l'a peut-être googlé. Alors, en fait, ça fait.
Je
veux
pas balancer, mais il y a deux semaines, Frosty's Advance, il googlait tout au fur et à mesure. Hein.
Ah putain, l'enfoiré.
Tu m'étonnes qu'il est en retard aujourd'hui.
Alors, attendez. Globalement, ça donne ça comme ça. Voilà. En fait, voilà, c'est le son. Voilà.
C'est génial. C'est pas vrai, ils ont accéléré, quoi, en fait.
Bon, en fait, ils ont accéléré et ils ont mis à l'envers le son de deux Japonais qui se disputaient.
Voilà. Ah, accéléré à l'envers.
Accéléré à l'envers. Le mec qui a trouvé ça, je te jure, il a vraiment passé du temps sur le jeu.
Et vu que t'as bien préparé ça, tu nous as la traduction, bien sûr.
Oui, il y en a un qui traite l'autre de tête de con. L'autre, il dit c'est pas ma faute si moi au moins je mets pas mes doigts dans mon nez. Enfin, c'est des trucs comme ça.
tu m'étonnes. Ça rend vite. Tu m'étonnes que le jeu vidéo rende violent après ça.
Ouais, non, mais c'est vrai, le jeu vidéo rend violent. Attention, on va finir par les petits vrais faux parce que j'aime bien. Alors, vrai ou faux, une
faux.
Île.
Faux.
C'est interdit de répondre avant que j'ai fini de poser la question. Il vous justifie en plus, voilà. C'est vrai, faux, une
Joker, justifié. Parce que je suis pas certain.
Putain. Vrai ou faux.
Vraiment, hein.
Vrai ou faux, une île GameCube était prévue dans le jeu mais a été supprimée.
Faux.
Vrai.
Faux.
Vrai.
C'est vrai. Il y avait une île GameCube de la même manière oui. Que sur Phantom Hourglass, il y a une île DS. Il y avait une île GameCube qui était prévue mais elle a été supprimée.
Moi je pensais que je devais justifier.
Bah tu justifies rien du tout, c'est moi qui ai justifié.
Mortal, t'as un point.
Voilà, je me donne un point à moi-même.
Ah, le choureur de points, quoi.
Vrai ou faux, sur l'épée de Ganon, le boss de fin, il y a écrit en ilien, donc en caractère ilien, il y a écrit Nique le roi d'Hyrule.
Faux. De toute façon, c'était sûr que c'était faux parce qu'on a. C'est pas des vrais.
Il y a pas de vraie traduction.
Sur l'épée de Ganon, il y a vraiment écrit un truc qui est vraiment traduisible en ilien, et en fait, il y a écrit Gabora et Zubora, qui sont les deux forgerons de Majora's Mask, les deux forgerons qui sont dans la montagne. Ah ouais, ça te troule le cul, ça. Hein.
Ouais. On a vraiment un système de lien,
on peut traduire l'ilien vers de l'alphabet standard.
Oui.
Voilà, il y a vraiment un truc.
Comme le Klingon, quoi. On peut direct le parler.
Tu pourrais le parler directement.
D'accord.
Attention, vrai ou faux, l'intérieur de la maison de Tingle avait été modélisé dans le jeu, mais le rose a fait vomir tous les développeurs, donc ils ont arrêté.
Vrai.
Non, ça c'est l'intérieur de Tingle qui a été modélisé rose.
Non, bah c'est faux, elle a été modélisée en réalité, mais c'est qu'une espèce de texture de bois et il y a une peinture de chat absolument horrible au milieu et personne ne sait pourquoi. Ah, c'est vrai en plus, hein, dans les fichiers du jeu, il y a ce truc-là qui est présent, personne ne sait vraiment à quoi ça correspond.
D'accord.
Et enfin, la dernière question, vrai ou faux, il y a un donjon complet, non texturé, ouais. Dans les données du jeu.
J'ai dit vrai. C'est sûr que c'est vrai.
C'est sûr que c'est vrai, et comment tu le sais?
Parce que t'étais pas capable d'inventer une question comme ça.
Putain, les mecs, comment ils trichent. Comment ils trichent, c'est horrible, quoi. Donc, effectivement, il y a énormément de test rooms, en fait, qui existent, qui sont restés dans les données du jeu et qu'on peut accéder avec un action replay. Et
à tous les coups, c'est dans un autre jeu après.
Alors, c'est possible que les test rooms aient été recyclés dans d'autres jeux. Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils ont peut-être fait beaucoup de tests avec le cel shading pour voir un petit peu comment ça donnait avec l'éclairage, avec la réaction des ennemis ou des choses comme ça. Et donc, il y a effectivement un donjon quasi complet. Non texturé, qui est disponible dans le jeu, mais qui est jouable uniquement avec un action replay. Et il manque le boss de fin, je crois. C'est-à-dire qu'il y a il y a genre la dernière salle est là, mais il n'y a pas le boss de fin. Voilà, c'est tout, j'ai fini.
Il y a un vrai game design sympa dans le donjon et tout, avec des énigmes.
Je sais pas, parce que j'y ai pas joué, figure-toi, j'ai pas d'action replay. J'aurais bien aimé essayer, mais j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, Wind Waker était pas vraiment le meilleur Zelda en termes de donjon. Comme ça, j'arrive à embrayer sur le sujet sérieux, c'est bien.
C'est peut-être un des plus mauvais, mais...
Alors voilà, alors je précise, Antix, lui, a détesté le jeu, alors j'aimerais bien...
Détester, c'est peut-être pas le mot, mais on peut pas vraiment dire que je l'ai aimé, oui.
Voilà, parce que... je sais pas, on peut peut-être revenir un petit peu sur l'histoire du jeu. Je sais pas si vous vous rappelez, la première fois qu'il a été présenté, je crois que les réactions ont été très...
Très négatives.
Ça a été compliqué.
Oula.
Antix a eu un petit problème, je pense.
Il est rugueux, ton papier cul, Méduse.
Si, c'est pas moi, c'est Andy.
Ah, donc, je savais pas que vous étiez tous les deux. Il a remplacé Frosties.
Non, pas du tout. Donc, oui, quand le jeu a été présenté, effectivement, je pense que tout le monde a détesté. Cyrard, je crois que t'étais le seul à avoir adoré.
Non, je pense que si tu cherches sur le site, j'ai dû sortir un édito à l'époque qui disait que c'était de la grosse merde. Et si tu le trouves pas, c'est que je l'ai effacé en... avec les remords que j'ai eu après.
Ah, le fou. Bon, bah, moi j'adorais, dès la présentation.
T'as mais... adoré tout de suite, genre le cel shading, ça t'a pas du tout choqué? Parce que je sais pas, il y a eu vraiment.
Au contraire, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est comme l'histoire avec Mario 128, tous les gens attendent le Mario 128 qu'on leur a promis ou le Zelda épique dont ils ont rêvé, etc. Et finalement, ils restent braqués dessus, tout comme il y a des gens qui restent braqués sur Resident Evil 4 ou ce genre de choses-là. Et voilà, quoi. Finalement, tu vois un Zelda avec des graphismes, enfin, je veux dire, quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire, qui déboîte et qui est super bien animé, et moi ça m'a scotché, quoi. Le trailer, il m'a... Wouhou.
C'est vrai, ouais, c'est niveau...
qu'ils ont fait la connerie de présenter un Zelda, la fameuse mini-vidéo où on voit Link et Ganon se battre à l'épée au moment de la présentation du GameCube. Et donc, tout le monde attendait ça, quoi. Donc, c'est vrai
c'était
que
une
ça...
démo technique, tout comme pour la Wii U, on a eu à peu près la même chose.
Certes,
après, on sait pas ce qu'on va avoir.
En termes de marketing, ça choque les gens, quoi. Parce que eux, ils veulent ça, et c'est vrai que c'était, pour l'époque, vraiment super beau. Et puis,
par contre, maintenant, c'est vrai qu'elle fait vraiment pitié. Non, mais quand tu regardes la vidéo du Space World, je crois que c'est le Space World 2000 ou quelque chose comme ça, ou 2001 peut-être.
2001, je crois.
Je crois que c'est 2000. De ce fameux Zelda, on va dire GameCube, qui n'a jamais existé, même si on retrouve quelques petites traces de design un petit peu après dans Twilight Princess notamment. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, globalement, moi, je trouve qu'il fait quand même assez pitié aujourd'hui, alors que le Wind Waker en cel shading, il a toujours le même charme. Enfin,
ah,
il a
ça,
pas
c'est
pris
clair.
Une ride, ce jeu.
Ah oui, il a super bien vieilli, parce qu'en plus, il est quand même hyper fluide, donc c'est propre, quoi.
C'est clean, c'est assez clean. Donc, Antix, du coup, toi, la partie graphisme, ça t'avait rebuté au départ et finalement t'as accroché, ou...
Bah, je pense qu'au début, j'étais assez neutre. Enfin, je devais avoir 10 ans à l'époque quand ils l'ont présenté ou un truc comme ça, donc c'est assez loin.
Oh, merde, un post 90.
Je suis né pile en 90.
Putain, il triche.
La porte du dojo bar est au fond à droite.
T'as pas un kick là sur un mumble?
Si, j'ai un kick si tu veux.
Tiens, il y avait des conditions, merde.
Ah, ne plus l'écouter, je peux faire ça déjà.
Faut mettre un disclaimer interdit au passé.
Ah, t'entends plus.
C'est quoi ce dictateur?
Donc t'avais à peu près 10 ans quand t'as vu le premier trailer, bah, un petit peu plus que ça du coup, parce que ça a dû être présenté en 2002, en 2003, quelque chose comme ça.
Ouais, donc 11-12 ans, je pense. À l'époque,
c'était en 2002,
je t'avoue que ça m'avait pas gêné, je devais peut-être être un petit peu déçu, parce que c'est vrai que Zelda, j'ai connu avec Ocarina of Time et Majora's Mask. C'est vrai que le style m'avait un peu, je l'avais trouvé ça un peu étrange, mais c'est pas ça que j'aime le moins dans le jeu. J'aime plutôt bien le style de Wind Waker, honnêtement.
Mais en fait, c'est surtout qu'il vieillit bien.
J'en avais parlé à un mec de Nintendo, Mathieu Minel en l'occurrence, et en fait, ce qui se passe, c'est que la toute première vidéo, celle qu'on avait vue, elle était prise donc avec un caméscope, vue de côté sur un écran sans doute avec un vidéoprojecteur. Donc en fait la vidéo elle était vraiment pourrie, en plus avec une résolution de l'époque du 320x200 sans doute. Et donc on avait une vidéo qui était vraiment merdique et qui rendait pas du tout hommage au jeu. Et lui il disait, moi aussi quand j'ai vu cette vidéo j'ai trouvé ça moche. Et après je l'ai vue en vrai. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est vrai que la première vidéo, c'est... Nous, sur Internet, on n'avait pas à l'époque des ressources officielles comme on a maintenant, quoi.
Et puis on n'avait pas le direct de l'E3, fallait se contenter de les images qui étaient glanées.
Alors on avait le direct de l'E3 pour. C'était le premier E3 en direct, je crois.
Ah oui, c'était le premier.
Moi j'ai regardé, je crois qu'il était 1h du matin avec Méduzette. Et on était scotchés tous les deux, quoi.
D'accord, bah c'est bien. Enfin, ce qui était le plus impressionnant, je crois que c'était surtout surtout les animations, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais,
c'est vrai que l'animation est ultra fluide et le même si le style cartoon est un peu bizarre, mais c'est vrai que les ennemis qui explosent dans l'espèce de nuage de poussière là, ça a toujours un rendu aussi extraordinaire aujourd'hui. Je veux dire, ça a pas pris une ride.
Et puis il y a les expressions de Link aussi.
C'est vrai que c'est le premier. Je crois que c'est alors Ocarina of Time devait être le premier où il avait des vraies expressions.
Il y en avait un peu plus dans Majora's Mask de mémoire, mais c'est vrai que Wind Waker, gros pas en avant, et c'est assez impressionnant. Quand
parce qu'il y a une expression pour quasiment tout, quoi. Puis en plus, je me rappelle quand t'as quelques passages où tu longes un muret où il y a de la lave, donc déjà t'as tous les reflets de la lave sur le visage de Link qui rentrent très bien, et puis il est là, genre, avec une grosse goutte de sueur, en train de longer son mur concentré avec les sourcils froncés, enfin c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quand même assez impressionnant.
Ouais, et en plus il y a un aspect humoristique qui est vraiment poussé dans celui-là.
Oui, en plus.
Et qui finalement qui manque beaucoup sur ceux d'après. Le côté dessin animé fait l'ambiance.
Ouais, mais
les
c'est
a
pas...
poussés à faire ça.
C'est pas facile de faire des blagues à base de chutes ou de trucs très bateaux, c'est très cartoon finalement, quand t'as pas les graphismes qui vont avec. Et c'est vrai que le gamin qui a la grosse morve au nez, là, je pense que dans, je veux dire, dans Twilight Princess, ça passe juste pas du tout.
Oh, j'aimerais bien, moi.
Ah oui, carrément, là, c'est vraiment le côté rigolo qu'on a envie de faire.
C'est vrai que c'est le côté un peu second degré. Alors du coup, alors je repars sur Antix, parce que c'est quand même celui qui a, on va dire,
qu'a
pas trop
goût.
Aimé, qui a mauvais goût. Antix, puisque c'est celui qui a mauvais goût. Non, mais c'est officiel, maintenant. Donc,
d'accord, voilà. Je note.
Et tu fais attention, sinon on te kick. Pas gaffe. Donc du coup, toi, qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que c'est vrai que l'aspect graphique... Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que... On était peut-être pas tous chauds au départ, mais qu'au final, quand on l'a vu en vrai, quand on l'a vu animé, quand on a fait tout le jeu, c'est vrai que ça reste très impressionnant. Et je pense que la mer, telle qu'elle est représentée dans Wind Waker, c'est, ça reste quand même... Enfin, c'est l'océan le plus impressionnant que j'ai vu dans un jeu vidéo jusqu'à présent, parce que ça s'étend à perte de vue, et c'est vrai que comme c'est cel-shadé, tu fais pas gaffe et ça passe nickel. L'aspect sonore, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même de sacrées bonnes musiques.
Surtout la musique de l'océan.
Ouais.
Surtout la musique de l'océan.
Celle de la zone
la deuxième
de la forêt, là, avec
l'île mercantile.
Du dragon, non, non, l'île du dragon, je crois qu'il y a...
L'île
ah
du
ouais.
dragon, oui.
J'adore
ça.
Ça déchire, ça.
Bon, voilà,
ça
donc
déchire.
Du coup... Antix, qu'est-ce que toi t'as pas aimé? Enfin, qu'est-ce qui fait que finalement c'est peut-être ton Zelda le moins aimé ou...
C'est peut-être un de ceux que j'aime le moins. Et la cause principale, je pense que c'est l'océan au final. Parce qu'il se passe. C'est comme tu dis, c'est vaste, mais moi je trouvais ça vide et au final il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de petites îles où t'allais, mais au final c'était juste récupérer un quart de cœur ou même juste des rubis. Et du coup, j'étais un peu déçu niveau exploration. Et non, je pense que c'est vraiment cet océan qui fait que j'ai pas accroché à Wind Waker et que je l'aime pas autant que d'autres épisodes de la série, comme ceux sur 64 par exemple.
Ah ouais, c'est clair qu'au niveau exploration, la plus grande zone, ça devait être mercantile à peu près, quoi.
Ouais, ça, il y a 4-5 îles qui sont vraiment grandes et les autres, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est un peu décevant, du coup.
Mais est-ce que tu fais partie des boulets, parce que j'en connais, hein,
oui.
Les boulets, qui ont des... oui, d'ici rare, il fait partie des boulets. Non, alors t'as pas de goût et tu es un boulet. Je sais pas si tu te rends compte, t'es vachement bien accueilli dans le dojo bar, tu reviendras tout de suite.
Quand est-ce que je ramène le fouet la prochaine fois?
Ah.
Si Méduse est toujours aux toilettes dans la tenue d'Adam, je veux bien que tu ramènes un fouet.
Ah, moi je suis preneur. Hein.
Okay.
Enfin bref, donc c'est... Est-ce que tu fais partie des boulets qui ont découvert la tornade très 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 tard dans le jeu?
Non, même pas. Je l'ai eu assez tôt. Enfin, je pense que dès qu'elle était disponible au final.
Parce que une fois que t'as, je suis d'accord que les premiers déplacements sont assez laborieux, même si, enfin, moi j'ai pas trouvé ça gênant. Alors, c'est vrai que passer 5 minutes à naviguer, c'est chiant.
Ouais, mais ça a son charme de se dire tiens, parce que j'attends, oui, parce que je vais voir comme île, comme zone. Bon, la première fois, ça va.
C'est un petit charme. Moi, ce qui m'a le plus saoulé en réalité sur cette partie-là, c'est pas tellement la partie navigation. Finalement, je trouvais ça plutôt agréable à naviguer. Puis en plus, je sais pas, c'est un peu rafraîchissant, je trouve. Fait une espèce de pause.
J'aime bien les batailles navales.
J'aime bien les batailles navales, faut le dire. Par contre, la partie chercher le poisson qui te file la carte, moi ça m'a cassé les bonbons, mais alors...
Ah, c'est vrai que c'était assez lourd.
Parce que une fois sur deux, tu le vois pas, des fois il est dans le fond, il est jamais au même endroit, tu galères toujours pour le trouver. Si tu le trouves pas, tu peux pas remplir ta grosse carte, donc c'est juste chiant. Enfin, tu peux explorer l'île, mais comme tu l'as pas sur ta carte, tu peux pas revenir s'il y a une tornade, enfin c'est quand même la merde.
Moi je trouve que cette histoire d'océan... C'est un peu comme les longs déplacements qu'il y a dans d'autres Zelda où tu vas d'un côté l'autre du monde. Sauf que là, t'appuies pas sur avant, tu diriges pas ton personnage droite à gauche. Tu laisses le truc aller et du coup, tu peux faire les petits trucs annexes, lancer des boulets, prendre les coffres et puis admirer quoi. Alors que sur Twilight Princess par exemple, tu dois aller d'un endroit à l'autre de la carte. De temps en temps, faut que tu mettes, je sais plus comment ça s'appelle le truc pour mettre la vue alternative là. Et puis t'avances quoi. Et puis t'esquives les personnages, mais tu peux. Il faut que tu sois actif pour faire un long déplacement.
La
alors
vue
que
alternative,
là,
tu parles du loup.
Ouais. Quand tu vois les odeurs là.
Ok, ouais.
Et toi, c'est le seul truc, mais il faut quand même que tu sois actif pour avancer. Et ça, c'est chiant. Alors que sur l'océan, mais pareil sur les épisodes DS, tu t'avances et le fait d'avancer, tu diriges pas vraiment quoi. Ça fait ça tout seul. Et moi, je trouve que c'est l'aspect cool en fait de cet océan.
Oui, c'est comme une espèce de courir automatique finalement.
En fait,
tu donnes le cap et puis tu laisses filer le bateau.
C'est la petite bonne idée de cet océan. Par contre, moi, le jeu, je l'avais fait en japonais à l'époque. Et il y a un moment, je savais pas sur quelle île il fallait aller. Et donc j'ai fait l'ensemble de la carte en allant au nord, en allant une case à gauche, au sud, une case à gauche, au nord. Et en fait, j'ai fait trois quarts de l'océan complet de la map en entier. Comme ça. Et en fait, ça m'a un petit peu gâché le jeu quand même.
Parce que c'est vrai que je crois que c'est un des rares Zelda. Je reprends ton aspect, de temps en temps, tu t'arrêtes sur une île, tu explores. Mais c'est vrai que c'est un des rares Zelda où quand ton objectif, il est... Enfin, si tu vas directement à l'objectif sans réfléchir, c'est vrai que tu te gâches une bonne partie du plaisir, je trouve. Alors que si tu vas à l'objectif, puis en réalité tu fais un petit détour pour passer à cette île-là parce que tu l'as pas explorée, puis tu fais un autre petit détour parce que tu penses qu'il y a un quart de cœur, puis tu fais un autre petit détour parce que tu vas chercher un coffre et ainsi de suite, au final, enfin, je sais pas, le voyage, je le trouve jamais monotone parce que tu vas jamais vraiment d'un point A à un point B. Tu fais plein de trucs entre deux parce que bah, tu peux le faire. C'est con, mais t'es à portée de l'île, tu la vois, donc tu te détournes un petit peu le bateau et t'y vas.
Ouais, moi j'ai eu cette impression aussi sur Spirit Tracks où en fait finalement bah tu choisis juste d'aller à droite à gauche et t'as les petites quêtes annexes sur le chemin que tu prends tu dis ah tiens c'est vrai qu'il fallait que j'aille là donc tu t'arrêtes et moi je trouve ça cool. En même temps c'est des jeux Spirit Tracks par exemple c'est pas un jeu qui a passionné beaucoup de monde mais moi j'ai aimé.
D'accord.
C'est
Mais en même
les
temps c'est
plus
le C'est vrai que ce qui était intéressant en plus avec Wind Waker, c'est que finalement il a donné toute une nouvelle personnalité, parce qu'on a quasiment la trilogie entre guillemets Wind Waker, parce qu'on a Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks qui récupèrent le même style graphique, les trois. Et c'est vrai, le même genre de gameplay avec un donjon central, alors peut-être un petit peu plus exagéré, parce que Wind Waker, rappelez-moi, le donjon central, on le faisait qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises.
Et il n'y a pas de donjon central dans Wind Waker,
ça
non?
Ça me dit rien.
À moins que tu parles de la tour des dieux.
Sauf si tu parles de la partie voilà, de la tour des dieux.
Je parlais de la tour des dieux, ouais, qui était
bof,
plus... Mais je me souviens plus exactement de la tour des dieux, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Wind Waker.
C'est ce qui te permet d'arriver à Hyrule à la moitié du jeu? Quelque chose comme ça?
Du coup, l'autre moitié du jeu, c'est quoi?
Putain, mais...
c'est deux temps placés oubliables, j'avoue que moi je m'en souviens plus.
Tu es à la recherche de fragments, là?
Oui, c'est ça,
ça
c'était ça la partie
fin,
lourde.
Ça c'est avant le tout dernier donjon.
Non, avant tu dois ramener deux des mecs que t'avais rencontrés au début du jeu, un piaf et une espèce de noah dans des temples.
Oui, c'est ça.
Qui libère
tu dois
la
les ramener dans les
que
temples.
Dans le genre.
Après, tu voilà. Il y avait la partie un petit peu comme Metroid Prime où quand t'as battu le dernier boss, on dit ah, maintenant faut ramener tous les artefacts, gros. Et t'es là, genre putain, vas-y, je vais me casser les couilles à ramener tous les artefacts. C'est le côté un peu abusé, genre on va rallonger de 2-3 heures la durée de vie, vous allez chercher tous les morceaux de la Triforce ou les morceaux de je sais plus quoi. C'était bien abusé ça.
On s'est fait griller, on prépare pas très bien le. Parce que personne n'y a rejoué, on sait
non,
plus
mais
trop
le
comment
remake,
ça se passe.
Il sort que dans 3 jours.
Il y a des
ah,
capsules
voilà
qui
pourquoi
nous
tu l'as pas reçu, Sirard. Il sort
là,
que dans 3
jours.
Il aurait fallu faire dans 2 semaines.
Non, mais moi j'ai dit qu'on parlait de Wind Waker HD parce que je trouve que c'était une bonne idée. Et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce que. Alors. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de jouer au remake HD déjà? Alors, parce qu'ils l'ont volé dans un magasin, ou parce qu'ils y ont joué à un événement organisé par Nintendo avec des petits fours qui envoyaient carrément du pâté?
Non, nous on n'est pas comme ça aux 2 jours.
Bon, parce que moi j'ai eu la chance d'y jouer, il y a un truc qui est quand même. Il y a un truc. Alors, il y a
deux
points.
Petits fours?
J'ai eu
les petits fours,
ouais.
Bon ou pas?
Les petits fours étaient carrément bons.
Ah merde.
Ah ouais,
tu m'en as pas ramené.
Je t'en ai pas ramené, j'aurais du mal. Il y a deux trucs que j'ai trouvé très intéressants. Vous allez me donner votre avis là-dessus parce que c'est vrai que c'est on va dire deux features un petit peu nouvelles. Parce que bon, alors ok, les graphismes sont en HD, c'est que quand on le voit, il est très 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 beau, toujours très bien animé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu d'aliasing, mais sincèrement, c'était très très léger. Et par contre, on a le. Ah, Méduse est en train de se torcher. Je suis désolé. Ça y est, il a filé la grosse crotte. C'est super.
Comme ça, je peux retourner dans le bar.
Ah, revenir dans le bar.
Hiroshi, c'était pour toi. Voilà.
mon Dieu.
Mon Dieu. Bref, donc il y a deux features intéressantes. La première, c'était qu'on pouvait contrôler tout l'inventaire avec l'écran tactile. Donc en fait, tu peux aller glisser directement ce que tu as besoin de l'inventaire jusqu'au bouton d'action.
Ouais, alors ça, c'est le truc ultra magique dont on reviendra jamais.
Tu penses que tu peux plus t'en passer, quoi.
Ah, ça a l'air génial.
C'est comme les cartes des Castlevania sur DS. Quand tu joues au Game Boy Advance, tu dois appuyer sur Select pour afficher la carte, c'est horrible. Sur DS, tu es toujours affiché sur l'écran du haut, c'est génial.
Ouais, c'est
Et je
vrai que
pense
c'est
que
le
ça va
genre
être
de
pareil.
truc, c'est vraiment le, ouais, c'est le genre de petit plus qui peut vraiment apporter grand chose. Alors, malheureusement, sur la démo à laquelle j'ai joué, c'était pas très très utilisé parce que c'est le tout début du jeu. Donc, il n'y a pas beaucoup beaucoup d'items. Il y a 2-3 bricoles, mais vraiment pas grand chose. Mais j'ai l'impression que dans certaines situations, ça peut devenir lourd parce que t'es quand même obligé je sais pas, de te pencher. Enfin, ça met pas le jeu à pause quand tu touches l'écran, donc tu te penches, tu fais ton truc. Enfin, si t'es dans une situation d'urgence où faut que tu changes d'arme, c'est peut-être pas l'idéal.
Ah oui, mais si t'étais dans le donjon en vrai, tu pourrais pas appuyer sur pause pour changer ton arme. Hein.
Bah si, parce que quand tu vas dans le menu, tu changes ton arme. Enfin,
Non, mais je veux
tu.
dire, toi en vrai,
Oui, mais en
si
vrai,
t'étais
quoi.
Link
Oui, en
Dans un
vrai,
jeu
oui, en
vidéo.
vrai, d'accord, mais enfin bon.
Ça,
Ouais, mais
c'est
ça devait faire un donjon en vrai, hein.
le gameplay asymétrique, c'est comme ça.
C'est n'importe quoi.
Mais pour le coup, est-ce qu'on peut quand même mettre en pause et changer son inventaire un peu comme on
Alors,
veut,
oui,
en
complètement, parce
supprimant
qu'en fait,
du truc
quand
à la volée?
tu mets à pause, alors de ce que je me rappelle, quand tu mets à pause, en fait, ça grise simplement l'écran de la télé, l'écran du gamepad reste le même.
Tu gueules.
Ah oui, donc tu peux l'utiliser pour configurer ton arsenal, quoi.
Tu pourrais carrément configurer ton arsenal. Tu peux carrément
Ça
le
va, c'est
faire.
merveilleux.
Surtout que tu as le même nombre de touches que sur GameCube, je crois. Alors, il manque. Non, la touche Z, elle est là aussi. Je crois qu'il y a une touche d'action supplémentaire, il me semble. Enfin, j'ai un doute. Je vais pas
Non.
dire de bêtises parce que j'ai un
On
doute.
a ABXY, on a deux gâchettes sur
Oui.
Wii U, on en a quatre. Donc on a tout ce
Voilà.
qu'il faut.
Donc normalement il y a tout ce qu'il faut. Et il y a une deuxième feature que moi j'ai trouvé assez intéressante, c'est que, alors dans la démo évidemment c'était pas vraiment la vraie feature, mais c'est quand même pas mal. Régulièrement sur le rivage, il y a une bouteille qui s'écrase. Enfin, il y a une petite bouteille qui arrive sur le rivage. Et en fait dans la bouteille il y a un message, et ce message il vient du Miiverse. Et ce que m'a expliqué le monsieur, c'est qu'en fait le message du Miiverse avait toujours un rapport avec ce que t'étais en train de faire. C'est-à-dire que c'est des gens qui envoyaient des messages. C'est genre, enfin, c'est pas, tu reçois pas tous les messages qui arrivent sur telle ou telle île, parce que sinon tu recevrais 40 000 bouteilles, ce serait un putain d'embouteillage sur la mer, tu pourrais même plus prendre le bateau. Donc ce serait un vrai bordel.
On parle de pollution.
Tu parles d'une pollution, ouais. Mais tu reçois de temps en temps, alors assez régulièrement, je sais pas exactement tous les combien, mais il y a une bouteille qui arrive sur le rivage, dans lequel t'as un message. Et en fonction de ton avancement dans le jeu et de l'île sur laquelle tu es, tu reçois des messages différents. Et pareil, quand toi tu envoies un message dans une bouteille, en fait, tu écris ton message sur le gamepad, t'as Link qui le met dans une bouteille, pouf, il la ferme et il le jette dans l'eau. Je trouvais ça super marrant comme façon d'intégrer vraiment le Miiverse au jeu sans que ce soit intrusif, sans que ce soit à la. Si tu veux à la Mario Super Mario Bros. U où tu sais t'as un menu complètement différent qui est pas du tout intégré dans le jeu. Là, c'est vraiment 100% intégré dans
Ouais, mais ça sert à rien
Alors
le
ouais,
Miiverse.
pour le coup c'est pas mal, mais ce que je trouve un peu moins marrant, c'est que pour faire ça, ils ont supprimé la connectivité qu'il y avait à l'époque entre la GBA et la GameCube, qui permettait à un deuxième joueur de faire intervenir Tingle et de lancer des bombes à partir de l'écran de la GBA.
Alors,
Je
je
trouvais ça
rappelle
sympa,
que
c'est un peu dommage qu'ils aient pas pu le faire alors qu'on a le gamepad quand même.
Non, enfin, la connectivité GBA, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde qui l'ait utilisée. Hein.
Non, mais justement, ça permettait peut-être de montrer une utilisation intéressante d'un écran tiers pour la console.
D'ailleurs, petite question, qui c'est
Parce
qui
que
l'a
cette
utilisé
appli.
la connectivité GBA sur l'original?
Moi.
Moi,
Moi,
vite
moi,
fait pour
moi.
tester.
Moi.
Eh ben voilà. Tout le
Voilà,
monde.
voyez? Donc tout le monde s'en fout de ce truc. Je préfère envoyer des messages à la mer.
Oh la mauvaise foi. Ah, mais je compte pour 3, c'est pour
Le
ça.
mec, il kiffe le combat naval et tout, quoi.
Mais ouais, il kiffe le combat naval, c'est
D'ailleurs, un
merveilleux.
jour, il faut faire l'émission en direct d'une péniche.
Alors dans ces cas-là, il faut tous qu'on la fasse avec l'accent portugais pour pouvoir faire. Attends, nous sommes en direct de la péniche.
Une péniche? Je suis sur la péniche, il fait très chaud.
On est sous la péniche et c'est très agréable.
On dirait
Voilà.
Apu.
Ça bouge beaucoup.
C'est un petit peu n'importe quoi. Bon. Et bien sur ces fortes paroles, maintenant qu'on a bien parlé de Wind Waker, on va faire une petite pause musicale. On va
Cal.
la pause fécale. Non, ça c'est bon, c'est fait.
Cal. C'est pour mes deux autres.
Donc on va refaire une petite pause musicale. On va justement écouter le thème de l'océan. de Wind Waker, puisque c'était effectivement un des thèmes les plus marquants du jeu, je pense. Et on va se retrouver dans un tout petit peu plus de 2 minutes. On va parler assez rapidement des remakes HD, puisqu'on a quelques amateurs de remakes HD dans la salle. Voilà. À tout à l'heure.
L'heure.
Et nous voilà des retours. Pas pour fouchouer un mauvais tour, mais pour parler des remakes HD de manière générale. Alors, nous, fans de Nintendo inconditionnels, présents dans ce bar.
Bar.
Voilà. Donc, nous, fans de Nintendo inconditionnels, finalement, c'est le premier remake HD qu'on voit débarquer. Mais c'est vrai que depuis la sortie de la Xbox 360 et de la PS3, c'est devenu une espèce de mode. On a régulièrement une compilation ou alors un seul jeu qui est sorti en haute définition alors qu'il était sorti sur PS2 ou sur Wii ou sur Xbox ou sur d'autres consoles. Alors je crois pas avoir vu de remake HD de jeux GameCube encore, mais il y en a peut-être.
Fais attention. Il y a les Banjo.
Banjo-Kazooie.
Et Perfect Dark. Ouais.
Tout à fait, qui étaient des jeux N64. Donc, Siram
mais
nous a fait...
Pas sur des Super Nintendo, les remakes, par contre.
Tout à fait, le premier remake, c'est Wind Waker HD. Donc, Siram, tu nous as fait une petite classification des remakes HD.
Non. Non, juste en off, je disais juste qu'on pouvait, différencier plusieurs types de remakes HD, parce que t'as des jeux comme Perfect Dark sur Xbox... qui était finalement juste de la HD. Il me semble pas que les textures avaient été refaites.
Par contre, il est fluide.
Merde, tu déconnes.
Non, il est fluide.
Mais ça va gâcher l'expérience de jeu, ça.
Alors là, c'est du H.
Ah, mais je crois. Mais au niveau du gameplay, je préfère la version 64 dans la mesure où finalement le stick droit pour viser, c'est vraiment un truc de pauvre. Tandis que quand t'avais le vrai truc de pauvre qui était juste 4 boutons pour la caméra, moi je trouvais que c'était très bien pour l'FPS.
Voilà, bon, ça c'était pour Perfect Dark HD. Donc, ouais, si tu disais, il y a les simples, mais il me semble que les Banjo et Kazooie c'est pareil, enfin Banjo Kazooie, Banjo Tweak était ressorti sur XBLA, il me semble que c'était pareil, c'était juste le jeu, mais en 720p au lieu d'être en 240p, voilà, c'est tout. Quoi.
Et en super fluide.
Donc après, je pense qu'il y a aussi des remakes où ils ont refait un peu les textures, et puis t'as aussi des remakes où vraiment ils refont la modélisation. Sur une Waker, ça a l'air d'être un peu ça. Ils ont refait certaines modélisations, pas tout, je pense. Les trucs principaux, les personnages, enfin certains personnages, tout est pas refait. Quand tu regardes précisément, tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses toujours aussi anguleux qu'avant. Mais avec les belles, de toute façon avec le cel shading, ça choque pas.
Puis ça passe. Mise à jour des shaders, et puis c'est surtout ça qui ressort le plus, j'ai l'impression.
Et puis t'as l'ensemble de la console virtuelle qui sont juste des upscaling de basse définition, où en fait ils refoutent rien, et ça sert vraiment à rien. Parce que c'est toujours aussi flou. Il y a des filtres éventuellement s'ils sont motivés, mais.
Ouais, mais du coup, est-ce que t'es prêt à repayer, enfin, est-ce que t'es prêt à repasser à la caisse pour jouer au même jeu qui va juste avoir, parce que faut quand même différencier un peu les choses. Pour les jeux qui ont juste un upscaling, c'est-à-dire qui ont vraiment juste, les mecs, ils ont, voilà, ils te font le même jeu, mais en 720p. Non, même pas les jeux 2D, je pense même aux jeux 3D, hein. Il y avait une compilation, Prince of Persia Trilogy, qui était sortie. Il y en a eu plein des compilations de ce genre-là, effectivement.
Il y en a eu une pour Metal Gear qui est sortie tout récemment sur PS3, qui reprend tous les Metal Gear sauf le 4.
Alors, Antix va pouvoir nous dire plein de choses sur le sujet.
Ah oui, pour le coup, Metal Gear, c'est un portage fidèle à la PS2, t'as juste des succès 1080p en plus. Et c'est tellement fidèle que les erreurs de traduction sont restées. Et ça, c'est magnifique.
Donc en fait, c'est quoi le... Enfin, en gros, les mecs, ils ont pris le jeu PS2, ils ont mis juste 3 filtres pour que ce soit moins flou et plus grand, et puis c'est tout.
C'est même pas 3 filtres, c'est qu'en fait, ils ont retiré les... Enfin, comme ils avaient enfin un support potable qui s'appelait pas la PlayStation 2, ils ont pu mettre ça sans, avec quasiment pas le déliasing et avec la résolution maximale. C'est presque comme un émulateur, quoi.
En gros, ouais, d'accord, bah, c'est...
Ouais. Avec le cas précis que Metal Gear Solid 2 est déjà sorti sur PC, et donc en HD, il y a 10 ans.
C'était pas sur Xbox, plutôt?
Non, sur PC, il y a eu le 1 et le 2 sur PC.
Ah, je savais pas pour le 2.
Voilà, donc en gros... Mais là, c'est quand même une vaste arnaque. Enfin, je veux dire, les mecs, ils prennent le jeu juste parce qu'ils ont un hardware qui tient un petit peu mieux la route, sur lequel ils sont obligés d'un petit peu moins bidouiller que le hardware d'origine. Bah voilà, ils te ressortent le jeu en te disant, bah voilà, maintenant il est fluide. Super, débrouillez-vous.
Ouais, mais moi je pense que... Enfin, tout dépend du prix, parce que si ils vendent ça 60€ comme enfin 60, bon, plusieurs dizaines d'euros comme Wind Waker, ça pue l'arnaque. Mais si t'as un jeu fluide parce que t'as changé de génération, moi je pense que l'ensemble des jeux Nintendo 64 en 3D, rien que pour la fluidité et puis un peu de résolution en plus, je peux repayer 5-10€ quoi.
En fait, pas de brouillard.
Et pas de brouillard, ouais.
Enfin, ouais, pour le coup, c'est pas ça. De brouillard.
Et par exemple, pour Metal Gear, bon, t'as le fait aussi que si tu découvres la série, t'as quasi la série intégrale sur un disque à, je sais pas, 40€, un truc comme ça, c'est encore pas mal, quoi. Après, ouais. C'est vrai que. Est-ce qu'il doit y avoir. Par exemple, Wind Waker HD, il est quand même un peu plus retravaillé qu'un simple upscaling. Après, t'as des gens qui ont envie de découvrir ça dans une version retravaillée, t'en as d'autres qui veulent un petit peu ressentir les sensations qu'on a pu à l'époque.
Quoi. L'expérience donc, originale.
Totalement d'avoir. Ouais.
Ah, et puis maintenant, une console genre la PS2 ou la GameCube sur une télé HD, c'est assez horrible à regarder, quoi, donc c'est pas plus mal en soi, quoi.
Ouais, mais tu crois pas que si les mecs avaient fait un petit effort, je sais pas, si les concepteurs de la PS3, je prends cet exemple-là, c'est un exemple un peu con, mais voilà, si les concepteurs de la PS3 avaient fait un petit effort pour que l'upscaling de jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 fonctionne correctement, t'aurais pas besoin de tout ça, parce qu'au final, acheter les 3 Metal Gear Solid d'occasion sur le bon coin, t'en as pour peut-être 5€ chaque, et encore.
Ah non, c'est sûr. Mais bon, du coup, si Sony avait permis l'émulation de la PS2 sur la PS3, ils auraient pas pu sortir God of War Collection et lancer la mode des remakes HD.
Genre, les premières PS3 étaient rétro-compatibles PS2, hein, faut le rappeler, mais ça a été...
Juste les premières. Hein. Ouais.
Après, non, mais voilà, mais aujourd'hui, tu prends tes jeux Wii, tu les mets sur ta Wii U, alors ok, ça sort en 480p, mais enfin, voilà, c'est...
Il paraît que c'est un peu plus propre, quand même.
Mais... C'est peut-être un peu plus propre, mais je veux dire, tu fais un...
Le upscaling est bien, puis il y a surtout que... T'as du vrai 480p, pour avoir du 480p sur la Wii normale, fallait déjà avoir une télé qui prenne du YQV absolument, quoi. Si tu passais par le Péritel ou le RCA, t'avais du 480i, et il y a des jeux sur lesquels c'était un peu pénible, du genre Xenoblade, de lire les textes, c'était franchement beau, quoi. Alors que je l'ai mis dans la Wii U, c'est nickel.
Alors oui, pour expliquer aux gens qui savent peut-être pas la différence, donc le 480i, c'est des images entrelacées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rafraîchit qu'une ligne sur deux de l'écran. Donc en gros, on est à 30 images par seconde, mais c'est 60 demi-images par seconde. Alors qu'en 480p, on fait 60 vraies images par seconde, donc ça rend généralement le jeu un petit peu plus fluide. Enfin, en tout cas, sur une télévision LCD ou plasma, c'est quand même largement mieux. Sur un moniteur CRT, le mieux, ça reste quand même de faire de l'entrelacement, donc de rafraîchir une ligne sur deux. Enfin, c'était juste pour la petite précision technique. Mais je rebondis sur ce que tu dis, mais je me dis, ouais, les gens qui connaissent pas du tout Metal Gear Solid et qui ont envie de s'y mettre, et qui ont jamais acheté un Metal Gear Solid de leur vie, c'est vrai que c'est simple, ils vont dans le magasin, ils achètent leur remake HD, ils ont les trois d'un coup, finalement ils se prennent pas la tête, et ils peuvent y jouer dans, on va dire, les meilleures conditions possibles jusqu'au prochain remake, qui sera forcément mieux. Mais on va dire que ça c'est le cas un petit peu particulier. Mais si tu as déjà joué, est-ce que ça a vraiment un intérêt? C'est-à-dire, est-ce que tu vas acheter le remake et y jouer? Genre, vous allez tous acheter le remake de Wind Waker HD, vous allez le finir.
Ouais, c'est ça, c'est que, bon, d'un côté, mettre même 10€ dans la console virtuelle pour un jeu que tu as même kiffé à mort, mais finalement c'est exactement le même, sans aucune amélioration, ça c'est de l'arnaque. Et on se laisse prendre une fois, et puis après tu te rends compte que finalement tu joues pas, donc c'est de la pure arnaque, et tu le laisses pourrir sur ta carte SD. Mais par contre, un jeu qui a été refait, que tu as bien aimé et qui est mis au goût du jour. Il y a un tweet qui est passé aujourd'hui ou hier sur le fait qu'on apprenne que maintenant qu'il y avait un remake HD de Day of the Tentacle. Qui a un point and click que Antix n'a pas connu tellement il est jeune.
Si, j'ai connu.
Mais non, t'as pas connu.
J'ai connu Monkey Island.
Monkey Island, lui, il est sorti en. Il a un remake HD.
Sorti après.
Et donc, c'est pas très cher. Tu peux l'acheter pour pas beaucoup. Et si t'as vraiment kiffé, autant le refaire en HD. Et puis, tu prends ton pied toujours autant. Et Day of the Tentacle. C'est pareil, là, on pleure un peu de pas goûter à ça. Moi, et récemment, j'ai commencé à refaire Majora's Mask, et ça pique les yeux, quoi, parce que tu dois avoir 5 images secondes en 320 par 200, quoi. C'est super moche, on a mal aux yeux parce que. C'était un framerate tout pourri. Et s'ils avaient fait un remake HD de ce jeu-là, moi j'aurais trouvé ça bien plus efficace que pour Zelda.
Même si on est entièrement d'accord. Hein.
Mais en même temps, tu pourrais y jouer sur émulateur et ce serait fluide.
Ah ouais, c'est buggé aussi.
Ouais, ah merde, non, il est buggé c'est... aussi sur émulateur.
Moi je trouve pas ça aussi bien l'émulateur. Et puis bon, il y a des.
Moi je trouve que c'est pas le même confort.
Et puis t'as des jeux de texture faits par certains fans bénévoles, donc complètement non officiels, mais en général c'est pas super homogène, donc ils refont des textures, mais il y a des fois c'est un peu cel shading, des fois plus réaliste. Ouais, en fait, il y a pas d'homogénéité dans le jeu.
Et finalement, t'as rien de bien.
Ouais, oui, voilà. C'est vrai que les rendus sont pas toujours top, et effectivement, il n'y a pas vraiment d'homogénéité, donc ça peut de temps en temps être gênant. Ça, je suis assez d'accord. J'en ai vu quelques-uns où, effectivement, tu sens que c'est pas des, entre guillemets, des vrais game designers qui ont fait le truc, puisque t'as un manque de cohérence globale dans les textures.
C'est juste des mecs qui ont fait des textures et qui ont juste pour elles d'être en plus haute résolution que la texture originelle, et voilà, quoi. Après, au niveau du, c'est pas des superbes textures, même si elles sont en plus haute résolution.
Voilà, donc, pour conclure, histoire qu'on termine quand même sur ce sujet-là, donc les remakes HD, de toute façon, je pense qu'on va en voir encore quelques-uns, au moins qu'il y a quelques séries mythiques qui ont démarré sur GameCube, sur PS2, sur Xbox, qu'on va forcément revoir. J'attends les remakes HD, moi, des premiers GTA, parce que je sens qu'il y a du potentiel, je sais pas pourquoi.
Et des premiers, tu veux dire les...
Ceux qui étaient en 2D, ouais. Je sens quand ils vont les refaire, ça va être rigolo. Mais on est d'accord qu'il faut quand même différencier les remakes qui sont vraiment complètement opportunistes, c'est-à-dire les mecs qui voilà ils balancent trois jeux sur un CD, ils essaient de le vendre, des trucs un petit peu mieux faits. Bon, je pense à Wind Waker HD, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment du retravail sur le jeu et où on essaye de supprimer les parties pénibles et on essaie de corriger un peu le tir.
Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres? Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait des masses qui sortent du lot. Après, je sais pas s'il y a des exemples comme ça, mais.
Bah, je vais te citer un exemple très con. Alors, c'est pas un remake HD à proprement parler, mais voilà. Resident Evil qui était sorti sur GameCube.
D'accord. On est tous d'accord, effectivement. Alors,
t'avais une sacrée refonte graphique qui faisait du bien, mais t'avais aussi quelques ajouts de gameplay qui sortaient du 2 et du 3 et du code Veronica, genre, c'est-à-dire le demi-tour rapide que t'avais pas dans le 1, qui était juste péniblissime. Enfin, des trucs comme ça que, voilà. C'est le premier Resident Evil sur PlayStation, je suis désolé de le dire, mais il était graphiquement horrible, même à l'époque.
Ah oui.
Et puis c'était quand même limite injouable. Alors la version GameCube, elle est toujours injouable parce que c'est Resident Evil et que c'est ultra rigide et c'est chiant à jouer. Mais limite, tu restes scotché parce que c'est beau et parce que finalement, ça se laisse suivre beaucoup plus facilement. Et il y a quand même des passages où t'arrives à t'en sortir, alors que sur la version PlayStation, c'était vraiment complètement déséquilibré, quoi. C'était même limite injuste par moment. Tu te faisais vraiment niquer pour des conneries, quoi.
Moi, j'ai une petite anecdote sur un remake qui n'en est pas un, en fait, et qui n'a pas grand-chose pour lui. C'est Beyond Good and Evil qui était sorti sur GameCube, PS2, Xbox.
On dit pas de mal de Beyond Good and Evil.
Je dis pas de mal, je vais te dire du mal de son remake. Et dont un remake est sorti sur 360, PS3 et PC. Alors, le seul truc particulier dans le fond, c'est qu'il était déjà sorti sur PC à l'époque, sauf qu'on pouvait pas configurer les contrôles, t'es obligé de jouer au clavier. Et ça, c'était pas drôle. Et donc, le remake PC, la seule chose qu'il a pour lui maintenant, si tu repasses à la caisse, c'est juste que tu peux bind des touches, quoi. Voilà, tu peux jouer à la
manette. Putain, c'est horrible de revendre un truc comme ça, quoi. Là, c'est typiquement l'exemple où c'est complètement abusé, quoi.
En plus, la version PC, elle était déjà belle et fluide à l'époque, forcément, même si c'était les textures GameCube et tout ça. Mais je suis pas certain, mais j'ai pas l'impression que sur 360 et PS3, le jeu est changé par rapport à la version GameCube, par exemple.
Bon. Donc finalement, ouais, mais... les remakes HD, vous êtes client ?
Alors, ça dépend, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait à la fin du Dojo Barb il y a deux semaines, c'est que un Wind Waker à 50€, franchement, c'est de l'arnaque. Et, donc, ils ont réussi à avoir les fans en sortant une version avec figurine. Et donc, clairement...
C'est le seul moyen d'avoir les fans.
Ouais, c'est le bon argument en plus.
Mais oui, moi j'étais parti pour pas l'acheter, donc ils ont sorti une putain de figurine, donc du coup je l'ai acheté. Mais le remake il vaut pas 50€, c'est clair. Et même avec un redesign, ils auraient fait ça sur Majora et ça aurait peut-être valu le coup, mais sur New Waker, c'est de l'arnaque. Mais
super bien vieilli.
Non, mais surtout que ça fait partie de ceux qui ont très bien vieilli, donc c'est vrai que c'est complètement con.
Ouais, tu le tapes sur un émulateur à l'heure actuelle en 1080p, bon, je veux dire, à part les shaders qui sont pas les mêmes. Il est juste superbe, quoi.
Ouais, donc 50€, c'est de l'arnaque. Donc 70€ pour avoir une figurine, c'est bon, ça va. Mais
70€, c'est
du coup, est-ce que tu vas jouer au jeu ou le revendre?
Non, je vais jouer.
Non, tu vas quand même le refaire.
Je vais lui filer. Ma femme qui a plus de 7 ans. Et donc, il faut faire des trucs pas chers. Les tarifs de la console virtuelle, pour moi, c'est des tarifs qui sont acceptables pour des remakes. Mais des vrais remakes refaits en HD, pas de l'arnaque qu'ils nous font sans aucune amélioration.
D'accord. Donc, si je résume bien ton idée, pour toi, c'est quand même essentiellement une question de prix. C'est-à-dire que, à la limite, t'es prêt à mettre le prix s'il y a eu du boulot derrière, mais faut pas non plus que ce soit trop cher parce que les mecs, ils ne refont qu'une refonte graphique et éventuellement 2-3 détails de gameplay. C'était ça l'idée.
Disons que c'est injouable, quoi. Donc, disons que le remake en HD, il a déjà vocation à faire jouer aux gens qui n'ont jamais connu le jeu. Et donc, si tu leur fous un truc en basse définition qui a pas un framerate de taré, jamais ils vont essayer. Donc, la console virtuelle, pour moi, c'est un peu le problème de leur concept, c'est que soit tu y as déjà joué et tu peux pas y remettre un prix comme ça. Sans aucune amélioration, soit tu as jamais joué et de toute façon t'as pas envie de te relancer dans un truc qui a pas été refait.
D'accord, je vois ce que tu veux dire.
À la rigueur, ça pourrait passer, mais effectivement, enfin, moi, il y a des jeux que j'aurais bien repris sur console virtuelle ou des genre de trucs là, si je les avais plus, si j'avais plus les originaux. Mais ce qui me fait chier, c'est juste la politique de prix qui n'est pas propre au remake, mais qui s'applique généralement sur tout le dématérialisé. On vend les jeux dématérialisés aussi cher que les jeux boîtes, quoi.
Alors, je me permets de mettre un tout petit bémol concernant la console virtuelle. Aujourd'hui, les jeux boîtes, entre guillemets, c'est-à-dire les jeux matérialisés que tu trouves sur console virtuelle, ils sont parfois beaucoup plus chers, et même assez souvent beaucoup plus chers que sur la console virtuelle.
Ah oui, carrément, mais je parle. Enfin, en général, le dématérialisé, je trouve le prix.
Oui,
pas
de manière générale.
Voilà, en général. Alors,
à propos des remakes HD, justement, Méduse, puisque t'as la parole, donc toi, qu'est-ce que t'en penses pour conclure, hein, histoire de dire. Est-ce que c'est un peu comme Cyril, c'est juste une question de prix, ou est-ce que tu te dis finalement, bon, si les gens sont assez cons pour l'acheter, pourquoi pas le vendre?
Ouais, c'est ça. Ça dépend. D'une part, j'aime bien, j'aime bien qu'il y ait du travail qui ait été fait sur un remake HD. Tout en respectant au maximum l'esprit de l'œuvre originelle. Et après, je me dis que par exemple, si on prend le cas particulier de Wind Waker HD, ils font un remake de Wind Waker HD. C'est pas le Zelda qui avait besoin d'un remake, mais quelque part, ça leur permet de se faire la main sur la Wii U. Donc ça leur permet de travailler un moteur. Pourquoi pas? Après, je doute que ce soit le cas de tous les remakes HD. Généralement, on travaille sur des nouveaux moteurs. D'ailleurs, je me demande si c'est le cas. S'ils font un remake HD de Wind Waker, pour se faire la main sur un moteur, c'est probablement que le moteur en question, c'est une évolution de celui du Wind Waker de base. Je sais pas.
C'est très probable, puisqu'il me semble que Twilight Princess était déjà basé sur le moteur de Wind Waker, et il me semble que Skyward Sword est en réalité une évolution du moteur de Twilight Princess. Donc en réalité, depuis Wind Waker, il n'y a pas grand-chose qui a évolué.
Du coup, c'est
mon souvenir. Hein.
Du coup, est-ce qu'on doit s'attendre pour le vrai Zelda Wii U en préparation, en parallèle ou juste après Wind Waker, est-ce qu'on doit s'attendre à un moteur qui soit beau, mais qui soit une amélioration d'un vieux? Ça peut être bien, hein, je sais pas.
J'en sais rien, sincèrement je sais pas. Je sais pas si c'est pour se faire la main ou si c'est juste une question de poser.
Enfin, ça a pas une importance exceptionnelle. Enfin, que ce soit un moteur qui reprenne de zéro ou pas.
Oui, toi ça t'intéresse pas forcément. Enfin, ça peut être intéressant pour les développeurs, mais c'est vrai que pour nous joueurs ça l'est un petit peu moins.
Antix, on verra la différence en bas la race. C'est sur la démarche quoi.
C'est sur la démarche, effectivement, que c'est intéressant. Antix, toi, les remakes HD, du coup, t'es client, t'es pas client?
Je suis pas vraiment client, j'ai acheté que Metal Gear pour l'instant. Mais c'est vrai que dans l'idée où, maintenant les consoles qui sont sorties avant la Xbox, avant la PS3, elles passent plus très bien sur un écran HD. Et que t'as pas forcément envie de garder toutes tes consoles sur ton meuble télé. Enfin, moi, je peux pas en mettre plus de deux, donc avoir un remake HD qui peut être agréable à un prix intéressant. Enfin, Metal Gear, je l'ai payé 10€. Hein. Pour le coup, je suis plutôt client. Après, c'est vrai que si c'est juste pour remplir un catalogue un peu vide, comme l'avait fait Konami en nous sortant 3 remakes HD, moyen, quoi.
D'accord. Effectivement,
je vois
ce que tu veux dire. D'ailleurs.
Et j'ai aucun problème à la console virtuelle. J'ai pas mal consommé au début de la Wii quand il n'y avait pas de jeu dessus. Donc, voilà. Moi, j'ai bien aimé la console virtuelle.
Vraiment hein. Pigeon.
Ce serait vraiment Super Metroid.
Mais oui, sur la console virtuelle Wii U, ce serait bien qu'on ait des jeux 64 sur la console virtuelle Wii U et de pouvoir y jouer sur le gamepad. Puisque depuis aujourd'hui, on peut jouer aux jeux Wii sur le gamepad. Ce serait bien qu'ils fassent la même chose avec la console
virtuelle.
D'ailleurs, ce
serait bien que quelqu'un qui a des jeux console virtuelle Wii qu'il a transféré sur sa Wii U, alors attention c'est compliqué, faut suivre, hein. Ce serait bien que quelqu'un essaye pour voir si on peut y jouer seulement sur le gamepad. Ou s'il faut obligatoirement.
Mais j'ai pas une console virtuelle.
Je suis pauvre.
J'ai des jeux WiiWare, mais pas console virtuelle.
Bah, tu peux déjà. Bah, les jeux WiiWare ça marchera pas
ouais,
déjà,
non.
Donc.
Mais
je pense que ça marchera pas.
Il
faut toujours une remote en théorie.
Bah oui, mais justement, t'as le gamepad, il a des capteurs.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne. Enfin bon, bref, c'est pas le souci. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on va se dire au revoir avant la blablague, parce que la blablague est particulièrement nulle. Donc, je préfère qu'on se dise au revoir avant. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour parler de je sais pas quoi, parce qu'on a vraiment pas du tout fait le conducteur dans 2 semaines. Donc au revoir tout le monde, et c'est donc Cyrare qui va nous faire la blablague.
Alors tu m'as un peu tout cassé parce que je devais faire semblant d'ouvrir un carambar et tout.
Ah non, t'avais... merde, désolé. Fais-moi
mais,
désolé.
Mais c'est une vraie blague carambar.
tu veux dire que ton stock de carambar tu l'as bouffé pendant l'émission?
Non, avant.
Avant l'émission. Avant,
ouais. En plus, avant.
Alors, il y a toutes voilà, ces autres blagues en off, avant.
Il y a toutes ces autres blagues, de toute façon, la
compile
des off.
Subies.
La compile des off, on y aura le droit. Allez, c'est rare, je te laisse aller
semblant.
Et je lance Tetris juste après.
Ouais. Alors, je devais faire semblant, là, j'ouvre le 40 bar. Ah, putain, ça se déchire, merde. Ah là là.
Tu fais super bien semblant.
Ouais, et puis alors, dans la catégorie blague de fou. Alors, deux fous se promènent, soudain, il lève la tête pour regarder un avion. Ah, je le reconnais, dit l'un, c'est l'avion du président. T'es fou, on aurait vu passer les motards.
Bon, allez, ta gueule et mes Tetris.
Fallait le